Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. L'Hebdo, à l'occasion de la sortie de son livre, Agustín Galeana viendra nous faire une petite visite dans quelques instants. Laetitia Millot également vient de sortir son tout nouveau roman. Elle est également à l'affiche, bien sûr, du meilleur pâtissier. Elle sera notre invitée exceptionnelle. Nos coups de cœur télé avec La Disparue de Compostelle qui sera diffusée dès ce soir sur France 2. Olivia Cotte sera avec nous. On parlera de Un Si Grand Soleil avec Nadia Fossier également qui sera notre invitée. Elle y joue le rôle d'Alix, rappelez-vous. Et puis Inès, Toroglosa et Dabisaï seront nos invités. Ils jouent dans Nouveau Jour. On va soutenir la série jusqu'au bout puisqu'elle sera diffusée, on vous le rappelle, sur M6+, jusqu'à la fin décembre. Nos coups de cœur cinéma également cette semaine consacrée à Dites-lui que je l'aime, le film de Romain de Boringer qui sera avec nous avec Elva Yelmani. Et puis Les Enfants vont bien également sort mercredi dans les salles. C'est le tout nouveau film de Nathan Ambrosioni. Il sera également notre invité. Et puis en exclu podcast, nous recevrons également aujourd'hui Nicolas Barry, co-auteur du documentaire Bardot avec Laurent Pérez Delmar, son compositeur. Et puis en exclu podcast également cette semaine, nous aurons le plaisir de recevoir François Lamy, un des administrateurs de la FM Téléthon, pour le Téléthon qui se déroulera, donc on le rappelle, tout le week-end prochain. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti, on démarre tout de suite avec notre premier coup de cœur ciné cette semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au deuxième film, Les Enfants vont bien, de Nathan Ambrosioni, qui est avec nous. Bonjour Nathan.
Bonjour.
Merci d'être avec nous après Tony en famille, qui avait fait un véritable carton. Tu restes encore une fois sur le thème de la famille, mais ce coup-ci avec un sujet très peu exploré au cinéma, la disparition volontaire. Chaque année en France, de nombreuses personnes disparaissent comme ça, s'évaporent dans la nature de façon volontaire, soit par vouloir changer de vie, soit marre de la vie qu'ils sont en train de vivre, tout simplement. On ne sait pas toujours pourquoi, on ne le saura peut-être jamais pour certains, mais en tout cas c'est un domaine très peu exploré. Qu'est-ce qui t'a donné envie en tout cas d'aborder ce sujet, Nathan?
Bah, exactement comment tu le présentes, merci de le présenter comme ça. C'est vrai que c'est 15 000 personnes par an en France. J'apprends en 2019 qu'on a le droit de disparaître, ça me bouleverse, ça me pose beaucoup de questions, ça résonne personnellement pour plein de choses, voilà. Et en fait justement le mystère qui entoure ces disparitions me fait comprendre que j'ai envie de parler de ceux qui restent et que j'ai pas envie d'essayer de résoudre un mystère que je ne résoudrai sûrement jamais et que la plupart des gens qui ont perdu un proche ne résoudront pas. Je préfère parler de ceux qui restent et comment ils traversent ces questions, comment ils affrontent l'absence d'un proche, le choix des gens qu'on aime, qu'on ne respecte pas forcément. C'est ça qui m'intéressait beaucoup. Et retravailler avec Camille Cotin, évidemment.
Et oui, Camille Cotin qui joue le rôle d'une jeune femme qui, elle, a pas envie, en tout cas, c'est sûr, d'avoir des enfants qui, pour elle, voilà, les enfants, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Elle a absolument pas envie. C'est une femme épanouie dans son travail, dans tout. Et puis, jusqu'au jour où sa sœur va sonner, effectivement, à sa porte avec ses deux enfants pour venir passer une nuit en famille, venir voir sa sœur qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Et puis, le lendemain, malheureusement, sa sœur va disparaître et va lui laisser les enfants sur le dos. Donc, c'est toute une histoire histoire qui va commencer évidemment pour le personnage de Camille qui va se voir flanqué de son neveu et de sa nièce. Et puis va évidemment la recherche de comprendre pourquoi le personnage de Juliette Armanet disparaît comme ça soudainement. Et on s'aperçoit à travers ton film que c'est aussi un véritable traumatisme pour la famille, pour ceux qui subissent ça.
Ouais, mais tu résumes vraiment mieux le film que moi. Ouais, c'est vrai que... Alors après, c'est un drame que je voulais lumineux. C'est un film qui va vers la lumière. Justement, on part du pire, de ce départ, de cette incompréhension. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de chercher quelqu'un de majeur qui choisit de disparaître. Donc en fait, c'est un faux film d'enquête parce qu'on commence avec une disparition. On pense que ça va être un film de recherche. Et en fait, ça n'en est pas un parce qu'on n'a pas le droit de la chercher. Donc c'est comment on fait pour vivre avec ces questions et cette irrésolution. Et c'est comment une famille va se construire.
Comment les enfants vont se construire avec cette absence.
Exactement. Mais voilà, c'est un film c'est une tragédie à l'envers. On commence par le plus intense et on va vers la lumière. Et c'était vraiment ça mon envie, c'est que le spectateur, il se retrouve face à un film qui ne le plombe pas, qui le déroute, mais dans un sens, voilà.
Positif, parce qu'il y a vraiment beaucoup de pointes de comédie aussi.
Il y en a quelques-uns, c'est vrai, moins que d'Anthony en famille, mais c'est vrai que je voulais que ça ressemble à la vie, le film. La vie, même quand on traverse des drames, elle n'est pas que noire, elle n'est pas linéaire, elle est faite de sursauts de vie, et c'était important pour moi que le film y représente ça aussi. Et aussi, on a deux enfants dans le film qui ont 6 et 9 ans, c'est des petits êtres pleins de vie, et le film devait aussi embrasser leur vitalité à eux, leur spontanéité,
leur haut, leur bas aussi.
Exactement, et c'est vrai qu'ils en ont pas mal, des hauts et des bas, et Jeanne va avoir du fil à retordre avec ces deux-là.
Ils sont incroyables, ces deux enfants, tu les as trouvés où?
Je les adore, Manoa, Varva et Nina Birman. C'était un casting, on a vu plus de 500 enfants avec ma directrice de casting, Sofina Edodovic. Mais c'était quand même une évidence. Franchement, Manoa et Nina, ils se sont distingués très vite, ils étaient...
En tout cas, ils étaient à l'aise hein, dans les avant-premières, sur scène et tout, ils envoient devant les caméras pareil.
Et pourtant, ils étaient très timides, hein, c'est des enfants très timides, mais très intelligents, à leur place, qui avaient envie de travailler, ils étaient trop heureux d'être sur le plateau, moi j'étais trop heureux de travailler avec eux, je me sens vraiment reconnaissant. C'était une expérience fabuleuse de les voir s'épanouir face à ma caméra, je me sentais privilégié d'assister à leur travail. Voilà, c'est une petite fille de 6 ans, Nina, et pourtant, elle est tellement investie, elle est bosseuse, elle connaît son texte par cœur.
Elle envoyait des colères, des fois.
Elle parle très fort, elle crie très fort, elle criait sur Jeanne dans le film, et je crois que, ouais, quand même, le film a bénéficié de leur vitalité, de leur spontanéité, et ça, j'en suis vraiment reconnaissant.
On écoute la bande-annonce ensemble, Nathan. On écoute Les Enfants Vont Bien, sort mercredi en salle, un film à aller voir en famille, justement, pour faire un petit parallèle avec Tony, t'as vu. Et en tout cas, on est très content de t'avoir avec nous, et on va tout de suite écouter ça. On revient juste après avec Nathan Ambrosioni, qui est notre invité aujourd'hui.
Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas le droit de venir voir ma sœur sans rendez-vous? Bah si, t'as le droit.
Je suis fatiguée.
On se parlera demain, on prendra le temps.
Hello, ma mère. Elle est partie où?
J'ai l'impression que votre sœur, elle était à bout et qu'elle est partie.
Suzanne?
Ça ressemble plus à une disparition volontaire qu'à une disparition inquiétante.
Donc vous allez pas aller la chercher?
Non.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est à moi qu'elle confie les enfants? Qu'est-ce que je suis censée faire là?
Tout laisse à penser que Suzanne est en pleine possession de ses moyens, qu'elle est seule et qu'elle a choisi ce départ.
Voilà, Les Enfants Vont Bien, c'est mercredi en salle. Le réalisateur Nathan Ambrosioni, qu'on a grand plaisir à recevoir à nouveau pour ce nouveau film. Alors peut-être un peu moins comédie que Tony en famille, mais vraiment le socle qui reste vraiment commun, c'est vraiment la famille, les enfants. Il y a tout ça aussi chez toi quand même, qui j'ai l'impression qu'il y a une importance capitale à parler dans tes films.
Ouais. C'est vrai que ça m'intéresse vraiment d'interroger la fatalité de ce lien, qui est le lien du sang. Qu'est-ce qu'on accepte au coût des gens qu'on aime? Je crois que la famille a une place absolument centrale et irrévocable dans notre société, alors que ça peut être un endroit douloureux, ça peut être un endroit de traumatisme, ça peut être un endroit qui est difficile, et je crois que ça m'intéresse en tout cas d'interroger la place de la famille et d'interroger la force des liens qui nous unissent. Mais encore une fois, il faut le faire avec délicatesse, il faut le faire avec pudeur, et je voulais que le film soit très délicat et très pudique.
C'est ça qui revient souvent depuis Tony en famille, pour le coup, Nathan. On a tous été surpris, je crois, que ce soit spectateur comme la presse aujourd'hui. Je crois que quand t'as fait Tony en famille, t'avais même pas 20 ans, il me semble, et de voir un film aussi abouti et d'avoir un film aussi bien mené, dirigé, on a tous été épatés en fait par cette maturité que tu avais déjà directe.
Oh bah c'est gentil, je ne sais pas.
Non mais c'est vrai que le cinéma, j'ai l'impression que t'as happé comme ça et t'étais fait pour quoi.
Oh bah en tout cas moi j'adore faire des films, je ne sais faire que ça et j'en fais depuis maintenant que j'ai 12 ans avec mes amis, on faisait des films d'horreur complètement amateurs et indépendants, autoproduits, et ça... J'étais passionné, je pense, globalement, beaucoup au cinéma. Ouais, un peu que à ça. Mais j'adore. Je suis un grand spectateur. Je regarde énormément de films. J'essaie de cultiver ma cinéphilie le plus possible. Et...
Ça commence à quel âge, ça, pour le coup? Tu te rappelles du premier film que t'as vu, peut-être, au cinéma?
Non, ça, j'avoue que je m'en souviens pas. Je me souviens que j'adorais Miyazaki quand j'étais petit, que j'adore toujours autant. Je me souviens du Géant de Fer. Je me souviens de films d'animation, ouais, qui m'ont beaucoup marqué. Je me souviens de regarder Harry Potter beaucoup. Je me souviens de regarder les films que ma sœur regardait un peu. Mais après, c'est vraiment les films d'horreur quand j'étais adolescent qui ont forgé ma cinéphilie et qui m'ont renforcé mon désir et mon amour pour le cinéma.
Et pourtant, t'es pas parti dans cette direction.
Non, je suis parti dans cette direction quand j'étais adolescent avec mes potes. Et après, voilà, j'ai pris une toute autre direction parce que j'ai compris qu'en fait, je préférais émouvoir les gens que leur faire peur. Et en même temps, j'aime toujours autant les films d'horreur. Mais c'est vrai que là, non, c'est des films. Je rassure les auditeurs, les enfants vont bien, ne fais pas peur du tout. Jamais.
Non, c'est clair. Quelle a été la scène que t'as pris le plus de plaisir à mettre en boîte? Que ça soit avec Manoa, Nina ou avec Camille ou avec Juliette Armanet, évidemment.
Ah, c'est dur. Franchement, chaque scène est un challenge. Chaque scène, c'est quelque chose de nouveau qu'on doit chercher. Je dirais que la scène où ils se font, il y a une scène assez rigolote où ils se font dessiner par Nicole, par leur tante. Et ça, c'est un moment que j'ai adoré travailler avec les enfants. La scène où ils reçoivent un mystérieux coup de fil. C'était une grande scène très intense et j'ai adoré.
Il y a personne qui parle au bout.
Il y a personne qui parle au bout du fil et c'est eux qui doivent composer toute une scène l'un avec l'autre sans adulte et j'ai adoré faire cette scène avec eux. Et avec Camille, franchement, il y a tellement de scènes que j'ai aimé faire. La scène du restaurant avec Nicole, la scène du chant au début avec Juliette Armanet. Il y a une scène où elle se chante une chanson. Alors ce n'est pas une comédie musicale, mais
tu peux pas avoir Juliette Armanet dans ton film sans qu'elle chante un peu quand même.
Ah ouais, une si belle voix, ne pas l'utiliser, ce serait quand même dommage. C'est vrai.
Non mais c'est vrai que c'est des beaux moments. Comment t'as fait pour la convaincre justement? Parce que j'ai l'impression qu'elle prend de plus en plus plaisir à jouer.
Juliette, alors bah, je suis allé la voir à l'Olympia avec Camille, c'est Camille qui m'a invité, elles se sont pris dans les bras à la fin, et ça m'a bouleversé, leur sororité et leur ressemblance, j'ai trouvé ça vraiment flagrant, frappant, et j'avais trop envie de les mettre ensemble dans le film, donc je lui ai envoyé le scénario le jour où elle performait pour les Jeux Olympiques, sauf que je savais pas qu'elle allait performer pour les Jeux Olympiques, c'est son agent qui m'a dit le matin, je suis pas censé te le dire, mais ce soir elle fait les JO, et j'étais en mode, ah mince, bon bah je pense qu'elle va pas lire, et elle m'a dit, bah on verra, et elle a lu le lendemain, et elle m'a envoyé un message le dimanche, je m'en souviens, pour me dire, j'ai adoré ton scénario, j'ai évidemment que j'en serai, j'ai toujours son message, et j'étais trop heureux, j'ai sauté au plafond et on s'est rencontrés, on a pris un café et elle est brillante, elle est passionnante, elle est très intéressante. Juliette, c'est vraiment, c'est une rockstar et en même temps c'est une humaine très délicate, très douce, je la trouve géniale.
Alors, il est vrai que sur un film comme ça, on parle de disparition, on peut s'attendre à une certaine fin. On va évidemment surtout pas la dévoiler, cette fin-là. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est que justement, c'est une fin à laquelle on n'est pas obligé de s'attendre. Et ça, c'est bien. J'ai trouvé.
Ah, mais tant mieux. Mais oui, parce que il y a l'interrogation qui doit suivre le spectateur. C'est est-ce qu'elle va revenir ou pas? Parce que même si c'est pas un film d'enquête, c'est un film sur des gens qui attendent un potentiel retour, qui attendent des potentielles réponses. Et le film va en proposer ou non. Et le film va répondre à ces questions ou non. Et je crois qu'il faut, oui, il faut aller voir le film pour savoir si elle rentre ou pas.
Et pour savoir si les enfants vont bien.
Et pour savoir si les enfants vont bien, en tout cas, c'est la réponse à laquelle le film s'efforce de répondre.
Exactement. La suite pour toi, Nathan. Est-ce qu'il y a déjà un nouveau film un peu sur les rangs? Est-ce que tu as commencé un peu à penser, à avoir une idée?
Ouais, il y a un scénario en cours, ça se passe bien, je suis au tout début encore donc je sais pas trop ce que ça va devenir, mais ça me fait du bien d'écrire, j'ai pas envie de vivre la sortie que la sortie, je préfère vivre la sortie avec le prochain film en tête, avancer comme ça, quoi qu'il arrive le 3 décembre, je serai prêt pour la suite, mais en même temps j'ai hâte de savoir comment les spectateurs vont prendre le film, là on fait plein d'avant-premières et ça se passe super bien, et les gens s'emparent du film et l'aiment, et ça me fait trop plaisir, donc... Voilà, j'ai...
Dans deux jours, on y est, en tout cas.
Oui, c'est vrai que dans deux jours, on y est. On va voir comment ça se passe. Mais je suis très excité et en même temps, je suis content d'écrire et de me concentrer sur la suite.
Les enfants vont bien, c'est le nouveau film de Nathan Ambrosioni qui est avec nous aujourd'hui. Ça sera mercredi dans les salles. On ne le rate pas, bien évidemment. Merci, Nathan, en tout cas, d'avoir été avec nous encore une fois. On te dit à bientôt.
À bientôt. Merci mille fois.
Merci, Nathan.
Qu'est-ce qui se passe? Moi, je veux pas m'occuper des enfants.
J'aime pas cet endroit, je veux rentrer chez moi.
Je me suis dit que peut-être tu voulais pas nous voir.
Ah mais non, mais pas du tout.
Ben ça se peut. Regarde la preuve, si jamais tu veux pas nous voir.
C'est pas à cause de vous.
Je sais que c'est difficile à concevoir, mais... parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour.
Maman, c'est toi?
Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ce qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça?
Notre coup de cœur ciné cette semaine dans Chute on écoute la télé consacré à Bardo, une fois n'est pas coutume. C'est un documentaire que nous allons vous proposer cette semaine à aller voir au cinéma. On a justement un de ses co-auteurs et co-producteurs qui est avec nous, Nicolas Barry. Bonjour Nicolas.
Bonjour et merci pour le temps qu'on se rencontre.
On est très très content de te recevoir, en tout cas mon cher Nicolas, et puis un habitué de l'émission qu'on a toujours plaisir à avoir, surtout quand on parle musique avec lui. Il est passionnant, Laurent Pérez Delmar. Bonjour Laurent.
Bonjour, merci pour cette introduction.
Bardo, c'est un film documentaire magnifique et surtout en plus, alors on va parler de la musique dans un instant qui est omniprésente et qui en plus est arrangée de manière vraiment qui magnifie le film. Mais il faut dire, Nicolas, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir un documentaire sur Bardo narré par elle-même. Et moi j'ai adoré ce prisme de fait qu'elle est intégrée au documentaire.
C'était l'idée effectivement de profiter du fait qu'elle a eu 90 ans cette année pour revenir finalement sur toute sa vie et que ça puisse être elle qui soit au cœur de cette narration. Alors il y a des moments, on l'entend donc, quand elle était plus jeune aussi, etc. Mais il y avait vraiment l'idée de parler de tous les thèmes sans censure et pouvoir faire des bilans avec elle.
Alors c'est vrai que Bardo se raconte dans ce film et à travers des images d'archives, on remonte très très loin dans sa carrière. On s'aperçoit pour la jeune génération qui va découvrir le film dans les salles mercredi, c'était une icône mondiale. On sort vraiment du contexte national.
Exactement, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu des intervenants internationaux dans le film, comme Naomi Campbell, comme Stella McCartney, comme Paul Watson, parce qu'on voulait vraiment que le film ait un rayonnement international, puisque c'est l'image d'icône qu'elle a dans le monde. C'est vraiment un personnage mythique et on voulait aborder en détail et de façon très intime aussi. Donc on a fait venir des intervenants qui sont aussi des gens qui l'ont très bien connue ou qui la connaissent bien parce que ce sont des proches ou des amis. Et pour avoir un panel très complet d'intervenants.
Alors c'est Alain Bernivière qui est aux commandes de ce film, il la connaît bien. Je crois, hein, pour le coup, Brigitte, est-ce qu'elle a été difficile à convaincre quand on sait un peu, il y a longtemps qu'elle n'a pas voulu s'exprimer ou qu'elle n'avait plus envie de, en tout cas, de s'exprimer au grand public. Et elle vit un peu, voilà, reculée, hein, sur le côté d'une petite plage de Saint-Tropez. Et c'est vrai que ça a dû être compliqué, quand même, de la décider à y aller.
Il se trouve que j'avais un joker dans ma poche parce que je connais bien quelqu'un de son équipe très proche qui travaille pour elle depuis 35 ans et qui travaille pour la Fondation Bardo et pour elle. Et il se trouve que c'est un ami de famille et ça m'a permis en fait de mieux connaître, de mieux comprendre sa façon de fonctionner, de comprendre aussi pourquoi il y avait vraiment tant de protection et pourquoi elle s'était parfois un peu recroquevillée dans une vie comme ça très solitaire, parce que finalement elle a tellement été entourée, tellement été photographiée, et jusqu'à du harcèlement perpétuel finalement, elle l'a vécu comme quelque chose presque parfois comme un viol.
Oui, elle était à l'époque des paparazzi en plus, hein. Aujourd'hui tout le monde est un peu paparazzi avec son téléphone, mais là à l'époque c'était vraiment les chasseurs.
Exactement, et donc voilà, on a pris du temps pour faire connaissance et pour la convaincre, et aussi de la convaincre de dire voilà, on va parler de tous les sujets sans tabou et qu'elle puisse être au cœur de ça.
Alors, le film démarre effectivement sur la petite crique derrière le port de Saint-Tropez. Et tout de suite, la musique, Laurent, nous met dans l'ambiance Bardo, tout simplement.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on a fait ce choix d'inscrire le film dans une bande originale qui est assez conséquente et qui traverse pratiquement la totalité du film. Parce qu'on a estimé que ça nous aidait, en fait, à nous projeter dans cette époque et à éprouver les émotions qu'on avait envie d'éprouver sur les propos de Brigitte. Ouais.
Comment tu l'as travaillé, la bande son? T'as attendu d'avoir les premières images qui arrivent, ou tu t'es imprégné aussi un peu des musiques de l'époque pour les réarranger, pour te les réapproprier?
Non, écoute, les musiques de l'époque, je les écoute très régulièrement, puisque c'est vraiment une époque de cinéma que j'adore. Les films mis en musique par Georges Delerue, les films de Jean-Luc Godard, ce sont des films que je regarde régulièrement, puis j'ai trois enfants, donc j'essaie de leur montrer. Donc non, j'ai pas eu besoin de réécouter de la musique. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux, trois allers-retours à Saint-Tropez, parce qu'elle est vraiment omniprésente, en fait, dans le village. Elle est partout, et le fait de passer dans des endroits où elle était passée, de voir son portrait, ça m'a beaucoup inspiré.
Elle est toujours avec sa petite Mary.
Toujours. C'est surtout Bernard qui conduit, son mari.
C'est assez dingue. Les animaux ont tout de suite pris une importance capitale chez elle. Et très jeune. Alors on sait aujourd'hui la défenseuse des animaux que c'est. Hein. C'est vraiment, je pense, la personne qui est peut-être s'inquiète le plus du sort des animaux au monde. Et il est vrai que Brigitte, là-dessus, a tout de suite donné le ton, y compris quand elle était déjà très jeune.
C'est vraiment une précurseur de la conscience écologique, je dirais, actuelle, comme l'était d'ailleurs Paul Watson sur la défense des animaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on voulait l'avoir, parce qu'il s'estime énormément. Elle a enduré, en fait, beaucoup de moqueries, beaucoup de choses, parce qu'en fait, elle venait perturber énormément de choses qui étaient en place, et elle a mené des combats tout au long de sa vie. Donc, elle est comme une guerrière, finalement. C'est quelqu'un qui a une colère immense, et en même temps qui parfois cette colère dépasse dans ses propos, parfois des choses qui sont aujourd'hui entendables ou pas entendables. Elle s'en excuse aussi parfois à rebours parce qu'elle se rend compte que sa colère l'a emmenée trop loin. Mais
elle laisse personne indifférent à la fois.
Exactement, c'était l'idée de ce film qui soit beaucoup dans les contrastes entre la tendresse et la colère, entre la lumière et l'ombre, et de pouvoir faire un film qui s'adresse à tout le monde et qui puisse toucher des gens aujourd'hui qui n'ont pas connu les époques dans lesquelles elle a vécu et puisse prendre en considération, en conscience, ce qu'elle a pu traverser tout au long de sa vie.
Avec la bande-son aussi riche qu'il pouvait y avoir déjà à l'époque dans le cinéma, mais aussi dans la musique en globalité, j'imagine, Laurent, qu'il faut faire des choix dans les arrangements qu'on va choisir ou dans les titres qu'on va choisir. Comment on fait ces choix ?
Moi, le principal travail que j'ai eu à faire pour que la musique originale s'intègre parfaitement aux reprises, dont je ne me suis pas occupé, hein, c'est un groupe qui s'appelle Madame Monsieur qui s'est occupé des reprises, c'était d'inscrire cette musique dans cette époque-là. Donc évidemment, ça se joue au niveau des arrangements, des orchestrations. Donc j'ai fait un choix, j'ai fait des choix que j'estime être les plus proches possibles de cette époque-là.
C'est la première fois que tu allais à Saint-Tropez ?
Non, tu sais, je suis niçois, moi. Donc,
oui, c'est pas loin.
Ouais, c'est pas loin. Et Saint-Tropez, ça fait partie de ma vie. Et j'adore Saint-Tropez en hiver, surtout quand il n'y a personne. Et donc j'y vais assez régulièrement. Mais j'avoue que depuis que je travaille sur le documentaire, j'y vais beaucoup plus souvent.
Et on comprend hein, pourquoi les artistes sont vite imprégnés et se sentent, je sais pas, créatifs là-bas, parce que c'est vrai que la lumière, les décors, enfin tout est vraiment exceptionnel. On comprend pourquoi Brigitte justement s'est installée là-bas, pourquoi elle est tombée amoureuse effectivement de cette baie.
Bah en fait, quand elle s'y est installée, Saint-Tropez n'était pas encore la ville qu'elle est devenue après. Donc elle
n'est pas étrangère à ça d'ailleurs.
Tout à fait, et c'est aussi un des thèmes du film hein, dans lequel on parle. On a eu l'accompagnement de la mairie de Saint-Tropez pour ça, parce qu'on parle aussi du fait que c'est devenu une ville mythique dans le monde entier. Les gens viennent du monde entier pour découvrir cet endroit aussi parce qu'elle a apporté cette aura.
Ah oui, il y a eu les gendarmes et Brigitte Bardot. C'est vrai que Saint-Tropez, c'est... Non mais c'est clair, hein, aujourd'hui. Puis après, Sous le Soleil, évidemment, et Johnny. Voilà.
Exactement, et c'est vrai que aller à sa rencontre, c'était aller dans cette histoire de la ville aussi.
Comment elle va aujourd'hui ?
Bah, c'est une dame qui continue à travailler tous les jours. Elle va tous les jours à son bureau qui est dans sa deuxième maison, qui s'appelle la Garrigue, où elle a tous ses animaux qui ressemblent plutôt à une ferme. Elle répond à son courrier, elle continue à traiter tous les sujets de sa fondation. Et voilà, le fera jusqu'au bout.
C'est incroyable. En tout cas, c'est un destin hors norme que celui de bébé, comme on la surnomme. Mais en tout cas, moi, je vous conseille d'aller voir ce très beau film documentaire, vous en avoir. En apprendre beaucoup plus, évidemment, parce que j'ai trouvé ça vraiment très authentique, le fait que ça soit elle qui narre les choses, qui raconte aussi les choses, et ça donne une authenticité absolument folle au film, quoi.
Ben, merci beaucoup de votre accueil et d'avoir pris le temps d'en parler avec ces mots.
Merci à tous les deux. Merci Laurent. Merci Nicolas. On va se quitter avec la bande-annonce. Bardot, ça sort mercredi au cinéma. On ne le rate pas, évidemment. Et emmenez les enfants, les jeunes voir. Voilà. Emmenez voir ce que c'était vraiment une icône à l'époque. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Ma vie a été plusieurs vies.
She was a dancer. She was a model, an actress, a singer.
Bardot was definitely an iconic image.
La gloire, c'est formidable et c'est invivable.
It's not love anymore, it's rage.
Elle a osé avant tout le monde.
We can see her as a pre-feminist figure.
On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer.
Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario.
Brigitte Bardot est the myth built on deep fragilities.
Je suis née libre et je mourrai libre.
Toute sa vie, elle a tenté de la perdre.
Et voilà ce qu'on tue.
Ça a été la première personnalité d'envergure à s'engager sur la cause animale.
Well, she understands the power of celebrity.
Bardot went one step too far for French anti-racist organizations.
It's all about disruption.
Je me fous qu'on se souvienne de moi, mais ce que je voudrais, c'est qu'on se souvienne du respect qu'on doit aux animaux.
Allez, ne bougez pas, dans quelques instants, Laetitia Millot, Agustin Galliana ou encore Roman Bourringer nous attendent. Alors à tout de suite dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
Tu croyais quoi, madame? Une vie de rêve sans drame, sans prise de tête. Je suis pas parfait, madame, tu me le dis trop souvent. Mais je ne peux pas t'offrir la lune si je ne suis pas un soleil. Je suis un fou, madame, fou de la reine. Je suis un pitre. Faut mieux pas me connaître si tu veux rester sage. Je suis pas né de la dernière pluie, mais du premier orage. Je t'aimerai jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai. Château des dîners aux chandelles. Oh, faut pas croire, madame, que dans le village y'a que des rois et des reines aux alentours. Reste sur terre, madame, qu'est-ce qu'on est beau sans l'extravagance. Je te promets pas l'impossible et des vagues de bonheur, mais je te protégerai de la noyade. Je t'aimerai jusqu'au ciel. La lune est si belle vue de là-bas. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout, les cœurs du monde à nouveau. Je promets pas de le faire, etc. Dans quelques années, tu t'y feras. Et si tu m'aimes plus, j'achèterai tout, les cœurs du monde à nouveau. Tu croyais quoi, madame? Tu croyais quoi, madame? Une vie de rêve sans drame, sans prise de tête. Tu croyais quoi, madame? Tu croyais quoi, madame? Je suis pas né de la dernière pluie, mais du premier orage. Je t'aimerai jusqu'au ciel, etc. La lune est si belle.
Les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à la disparue de Compostelle, mini-série en 4 épisodes dont les 2 premiers seront diffusés ce soir sur France 2 pour ce lundi 1er décembre. Et c'est Olivia Cotte qui est notre invitée et qui va en parler avec nous. Bonjour Olivia.
Bonjour à tous et à toutes.
Merci d'être avec nous. Tu incarnes le rôle de Jeanne Nogaret, gendarme à Saint-Guilhem-le-Désert. Très beau village qu'on a eu l'occasion de visiter. Et c'est vrai qu'on va y découvrir en tout cas le destin de Jeanne, cette gendarme qui alors, je crois, je vais pas dire qu'elle est au bout du rouleau, mais vraiment, c'est compliqué. Entre ses 2 fils qui veulent rien écouter, hein, des ados quoi, hein, bref. Hein. Et puis sa maman au début d'Alzheimer, où c'est compliqué évidemment aussi. Elle va voir d'un seul coup ressurgir une vieille affaire qui date d'il y a 5 ans, la disparition d'Emma Vivian, la fille de l'une de ses amies d'enfance, et qui va refaire éruption en tout cas à travers l'intelligence artificielle. C'est habilement mené parce qu'il y a aussi les nouvelles technologies qui viennent se mêler avec vraiment tous les affres que peuvent comporter justement ces nouvelles technologies, les dangers que ça peut représenter. Alors que se passe-t-il? Est-ce que ça a un lien tout ça? C'est ce que va décortiquer en tout cas Jeanne. Est-ce que j'ai bien pitché, Olivia?
Mais merveilleux. Alors vraiment, j'essaie de tout retenir pour la prochaine fois qu'on me demande d'en parler. Je vous rappellerai, vous me ferez la petite voix derrière moi.
Exactement. Qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le
monde? Vous avez oublié le mari en prison quand même.
Ah oui, j'ai oublié le mari en prison, Julien. J'ai oublié Julien en prison par joué par Samir Boitard évidemment. Non mais je dis elle est au bout du rouleau hein.
Bout du rouleau.
Qu'est-ce qui t'a plu alors dans ce rôle?
Moi, ce qui m'a plu, c'était d'incarner une femme digne, forte, courageuse, empathique. Je trouve que c'est quand même des qualités qui sont notables. Et ce que j'aimais, c'était que de voir dans l'écriture comment pendant plusieurs épisodes, sans spoiler, elle tient un coup, et puis que tout d'un coup, bon ben, la carapace craque. Et ça, je trouvais ça très intéressant à jouer et à raconter, quoi, que même si on est des, on n'est pas l'intelligence artificielle, justement, ça, l'intelligence artificielle nous volera jamais ça. Notre capacité d'être si fort, voilà, l'humanité, d'être si fort, et puis tout d'un coup craquer, demander un petit peu d'aide, un peu de soutien, c'est forcément autre chose que l'intelligence artificielle qui nous l'apporte vraiment.
Alors, on va découvrir évidemment aussi plusieurs personnages qui vont graviter autour de Jeanne, dont la mère du village, aussi la maman d'Emma, très proche de Jeanne, hein, jouée par Cécile Reboy, toujours aussi touchante.
Cécile. Oui, elle est merveilleuse. Moi aussi, je l'adore. On joue ensemble une autre série, mais je fais juste une micro-parenthèse, une série pour France 2 aussi qui s'appelle Nourrice.
Oui.
Et on rejoue un duo d'amis, les deux, qui sont fortement éprouvés par des disparitions d'enfants. C'est marrant. On se retrouve encore à jouer des situations, alors pas similaires, mais proches. Et j'adore jouer avec Cécile Reboy. C'est une partenaire merveilleuse.
Saint-Guilhem-le-Désert, c'est vraiment chouette, hein. C'est beau, hein.
Oh, j'ai adoré. Je comprends ce monsieur Saint-Guilhem là qui a dit oh j'en ai marre de la guerre, j'en ai marre des fêtes. Je vais me mettre dans ce petit coin, savourer le ciel étoilé, le chant des oiseaux. Je le comprends. C'est vraiment une très bonne idée de faire retraite ici. Moi, j'ai adoré être là-bas. Gros bisous à Angélique, qui est une femme merveilleuse. Il y a plein de gens merveilleux là-bas.
Alors, on disait, il y a un super casting. Vous allez peut-être y reconnaître, en tout cas, celle qui te vient en aide à la gendarmerie, Inès Ouchaou, que vous avez peut-être découvert dans la série Nouveau Jour sur M6 et qu'on va retrouver avec plaisir, alors qu'elle avait tourné à Disparue de Compostelle avant.
Donc, oui, elle est merveilleuse. Je n'ai que des éloges à la bouche pour parler de mes partenaires. Ils étaient tous merveilleux. Oui, elle est géniale. Elle a un jeu déjà très mûr pour son personnage. Je la trouve géniale.
C'est vrai qu'on sent vraiment dans ce personnage de Jeanne, comment tu la définirais, toi? Parce qu'on sent vraiment que quelqu'un avec beaucoup de compassion, beaucoup de...
Empathique et droite,
y compris envers les jeunes, des fois, droite. Qui font un peu n'importe quoi, par exemple.
Elle tient sa barque d'une main de fer et en même temps, elle a beaucoup de douceur. C'est ça aussi que j'aime. C'est pas la caricature du soldat un peu insensible.
Ouais.
C'est un soldat tendre. Mais bon. C'est vraiment un soldat, pour le coup. Ça m'a beaucoup ému.
Et parmi ces
maintenant
deux
fils... Maintenant, je regarde les gendarmes très différemment. Maintenant, quand je regarde les gendarmes, quand je les vois, je me dis « Oh, j'ai envie d'aller leur faire des câlins ». Déjà, rien que pour le poids qu'ils portent tous les jours. Le fardeau qu'ils ont sur les épaules et autour de la taille, je me dis « Waouh ».
C'est quelque chose qu'on ressent immédiatement quand on enfile l'uniforme ou pas?
Alors, vraiment, c'est marrant parce que c'est très viril. Moi, j'avais l'impression d'avoir une paire de testicules qui me poussait tous les jours dans le pantalon, quoi. C'est très viril. Il y a un truc de virilité, malgré tout, même s'il y a beaucoup de femmes qui font ça, où tu sens que tu dois être prêt à te battre, à te défendre, quoi.
Mais
donc, dès que tu passes l'uniforme, t'as quelque chose qui te genre, étrangement. Mais justement, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que c'est une guerrière tendre.
Chaque épisode va amener son lot de rebondissements, évidemment, Olivia.
Ouais.
Et dès le premier, on va avoir une espèce de bascule. On va comprendre que c'est peut-être justement une personne du village qui aurait fait ça. Comment c'est possible? Parce que à la base, c'est un pèlerin qui aurait été tout de suite soupçonné dans cette histoire. Et on va voir, voilà, au fur et à mesure des épisodes, il y a des rebondissements à chacun des quatre épisodes, et vous allez voir qu'il va être très difficile. Ce soir, au bout des deux épisodes, de pas se jeter sur France.tv pour aller voir la suite.
Ah bah oui, parce que c'est vrai que c'est moi, quand j'ai lu le scénario, j'étais tenue, quoi. J'étais là, tu peux pas lâcher, quoi. Après, c'est inspiré de l'auteur et la productrice et la réalisatrice. Ce sont tous les trois inspirés de deux séries anglaises qui sont merveilleuses. Je sais pas si vous l'avez vu et si les auditeurs et auditrices l'ont vu, mais c'est deux séries anglaises merveilleuses. Il y en a une qui s'appelle Happy Valley.
Oui.
Et l'autre qui s'appelle Broadchurch.
Ah bah oui.
C'est merveilleux.
Ah bah, mes deux préférés.
moi aussi. Franchement, je regarde pas souvent de séries, mais ces deux-là, je les ai regardées justement pour le travail. C'est à ce côté-là de ces séries anglaises où en effet, tout se passe dans quelque chose de clos.
Ah oui, tout à fait. Puis dans ce village qui est à la fois beau et étouffant dans cette atmosphère. En tout cas, un très beau casting. On le disait à tes côtés, Nicole Calfan, Samir Boitard. On a Lizzie Vincent, vous allez voir, qui joue le rôle de Emma, qui fait passer beaucoup de choses par le regard. Cécile Reboy, ouais. Vincent Deniard, Carole Bianic, qu'on adore aussi. François-Dominique Blin, Inès Ouchaou. Tes deux fils, dont les fans de Demain nous appartient, en reconnaîtront un des deux, c'est sûr.
Oui.
Et puis Olivia, ce n'est pas tout, tu es au cinéma en ce moment, t'as pas changé le film
mais
de Jérôme Commandeur.
Mais oui, c'est bah vraiment, ceux qui ne l'ont pas vu, allez le voir parce que c'est de la rigolade.
Ah bah oui.
On rigole beaucoup et on est ému en même temps aussi.
Exactement.
Il y a quelque chose, ouais, il y a quelque chose de la condition humaine, du temps qui passe, tout ça.
Exactement, tu y joues le rôle de la veuve.
Oui, c'est ça, de la veuve qui enclenche tout le mouvement. Ouais, j'aime beaucoup mon personnage.
Et on va rigoler.
J'aime beaucoup ce film. Ouais, vous allez rigoler.
Ah bah oui.
Mais même si ça parle de la condition humaine, c'est ça qui est fort dans le travail de Jérôme. C'est que malgré la tristesse de la condition humaine, ça ne nous empêche pas de rigoler.
Exactement. Et oui, vous allez voir en tout cas Jérôme Commandeur, Laurent Lafitte, Vanessa Paradis. Toi, c'est Michael Abitboul qui joue d'ailleurs le rôle de ton mari dans le film qu'on adore aussi.
Oui.
Que des gens bien tout ça.
Oui.
T'as pas changé, c'est en ce moment au cinéma. N'hésitez pas à aller le voir, hein, c'est les dernières semaines. Hein, si vous voulez aller le voir, il y a encore une ou deux semaines dans les salles. Alors profitez-en, en tout cas pour aller le découvrir ce soir. Eh bien, nous allons regarder tous ensemble La Disparue de Compostelle à 21h10 sur France 2. Vous avez déjà la suite, bien sûr, sur France.tv si vous ne pouvez pas attendre. Sinon, ça sera lundi prochain. Merci beaucoup, ma chère Olivia.
Merci à vous.
On se dit à bientôt.
À bientôt.
Allez, tout de suite à bande-annonce.
Je m'appelle Emma Vivian et j'ai disparu il y a 5 ans.
C'est légal cette vidéo ? Regarde, c'est Emma. Ils ont trafiqué son image.
Personne n'a jamais su ce qui m'est arrivé.
C'est troublant, mais c'est pas la réalité, ça.
Combien de temps t'as travaillé sur la disparition d'Emma ?
On a tout fait. On n'a rien négligé.
On s'était disputé.
Il y a forcément un moyen de remonter jusqu'à l'auteur de cette saloperie.
Tu m'as promis que je me sortirais de cet enfer.
Tout le monde sait ce que vous faites.
Les contenus ont été générés par des intelligences artificielles.
J'ai listé toutes les sources.
C'est l'adresse de l'ordinateur de la mairie de Saint-Guilhem.
Celui qui a fait disparaître Emma serait quelqu'un de chez nous.
Son absence les détruit. Sa présence les poursuit. La Disparue de Compostelle, votre nouvelle série événement, sur notre plateforme et ce soir à 21h10 sur France 2.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Un si grand soleil, votre série que vous suivez du lundi au vendredi à 20h45 sur France 3 et en avance sur France.tv. C'est l'occasion pour nous de recevoir celle qui vous fait toujours rire, le rôle d'Alix, Nadia Fossier, qui revient dans Chute en écoute à télé. Bonjour Nadia.
Bonsoir, merci d'être là en face de moi.
Ça y est, Alix is back.
Oui, elle est pas vraiment partie, mais elle était un peu se reposer. Non, elle est de retour avec des péripéties. Je pense que les gens vont beaucoup s'amuser. C'est ce que je souhaite avant tout, c'est que les gens puissent se divertir, penser à autre chose que leur journée ou leur semaine ou c'est l'hiver, il fait froid et ils ont envie de rire et ça leur fait du bien. Parce que pour moi, la comédie, c'est comme de l'homéopathie. À petite dose, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien. À l'âme, et je pense qu'on en a tous besoin.
C'est vrai que Nadia, franchement, elle nous fait du bien, Alix. Parce que dès qu'elle va apparaître, on sait qu'on va passer un bon moment, on sait qu'on va rire. Et on sait pas dans quelle péripétie elle va nous emmener, mais c'est sûr, il va y avoir des embrouilles. Et ça va souvent se retourner contre elle. Et c'est drôle parce qu'on sait jamais comment elle va retourner sur ses pattes, mais elle retombe toujours sur ses pattes.
Oui, c'est ça qui est merveilleux dans l'écriture, c'est qu'elle retombe sur ses pattes avec beaucoup d'agilité et en même temps de fragilité. C'est-à-dire qu'elle tombe, mais elle se fait un petit peu mal, mais pas trop. Et du coup, ça amène, évidemment, c'est dans l'écriture que ça se passe. Qu'est-ce qui prime en comédie? C'est la situation, une contre-situation qui va créer de la comédie. Au plus on est sincère dans le jeu, au plus on est accordé avec son partenaire. Moi, j'aime beaucoup travailler en amont avec mes partenaires. Et pour amener la comédie, c'est vraiment une partition de musique. Il faut que ce soit parfait. Les ruptures, tout ce que ça raconte, faut que ce soit vraiment huilé. On peut pas arriver comme ça sur un plateau et lancer la comédie comme ça, c'est pas possible. En tout cas pour moi, il y a d'autres personnes qui font autrement, mais voilà, moi je fais ça comme ça.
Alors, c'est vrai que la galerie et le théâtre souvent, soit de malversation ou alors de faux tableaux, hein, comme ça a été le cas pendant de nombreux mois, où il y a eu des faux tableaux, qui ont été dessinés quoi.
Ah ben je ne suis pas du tout, je comprends pas ce que vous racontez. Il y a eu des faux tableaux à la galerie.
En plus. Mais c'est pas possible. Mais elle serait-elle de mauvaise foi en plus, cette Alix?
J'apprends tout là. J'apprends pourquoi Alix fait des faux tableaux et...
Non, pas Alix, mais elle essaie de revendre.
Ah bon, je suis pas au courant.
Non, oui, elle fait. Tout est vrai.
Bien sûr, tout à fait. Il n'y a pas d'arnaque du tout là-dedans. Je vois pas du tout où vous allez là. C'est ça qui est drôle. Et je vous parlais de situation. C'est vraiment ça qui est intéressant, contre situation. Et effectivement, c'est génial de faire.
Il y a eu des scènes d'anthologie avec personnage d'Hélène, comme avec Sophie Letellier. Ou que là, franchement, on était à la limite de la psychiatrie pour la pauvre Hélène. Et le personnage d'Alix qui s'en amusait un peu quand même, en quelque sorte. Et puis qui avait de la peine aussi pour son ami par moment. Et puis qui, des fois, enfonçait un peu le clou, quoi.
Non, dans l'amitié, on aide l'autre. On essaie de la réveiller. On essaie de lui dire, mais attention, tu vas dans le mur. Et voilà, ça, c'est partie de l'amitié. Et je pense qu'Alix, à ce moment-là, elle a montré un visage d'une femme avec de l'empathie. Qu'on n'avait pas vu avant, puisque ce qui permet dans la... quotidienne, c'est de rencontrer un personnage pour les spectateurs où on peut l'emmener sur une longueur. Et pour nous aussi, quand on découvre les scénarios, c'est, on se dit, waouh, il se passe ça, mais c'est, non, c'est génial. Enfin, c'est, nous aussi, on est comme les spectateurs, on découvre, hein, en fonction de la lecture.
Quand tu lis les scénarios, t'es toujours surpris aujourd'hui, après 5 ans, je crois que ça fait que c'est dans la série.
Oui, oui, et ce qui est incroyable, c'est là où ils sont très très forts, c'est quand je lis, je vois comment mes partenaires vont jouer la partition, et moi, je vois comment je peux interpréter Alix en fonction du ton et tout ça. C'est-à-dire, c'est tellement bien écrit que je vois tout à fait comment Maxence va jouer Ulysse. Je sais les intonations qu'il va faire, les ruptures. Et donc, moi, je m'ajuste sur lui. Et puis, en gardant, évidemment, tout ce que j'ai mis en place pour Alix, avec sa rapidité de parole, son empathie, sa façon de gérer les choses très différemment des autres. Mais je trouve qu'elle... en tout cas, ce que je peux essayer de mettre dans ce personnage, c'est d'être comme tout le monde, en fait. C'est une femme qui essaye de s'en sortir. La société fait pas de cadeaux. La vie est chère et elle n'a pas d'argent. Elle est seule, sans enfant. Un enfant va arriver dans sa vie, mais c'est... Voilà, on l'a suivi parce que Lucas est arrivé. Mais c'est une femme qui doit s'en sortir. Alors, elle a une galerie, certes, mais elle est toute seule. Hein. C'est une femme qui se... C'est une combattante, c'est une battante. Pour moi, c'est... elle représente plein de femmes que j'ai vues un peu partout...
Parce qu'elle avait trouvé l'amour, mais l'amour a pris l'eau, enfin plutôt le bateau, enfin la mer, quoi.
Bravo pour le bateau, hein. Oui, ça a pris l'eau, peut-être qu'il va revenir, hein, Virgile, je le souhaite.
Oui, c'est vrai que Fred Bianconi, on espère tous, hein, évidemment, qu'il va revenir parce qu'on adore ce personnage et je sais que c'est un personnage qui lui manque.
Oui, 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 et puis le duo fonctionnait très très bien entre Virgile et Alix, ça c'est vrai que c'est un cadeau pour que ce couple existe, effectivement. Bon, il est parti en mer, il va peut-être revenir, je ne sais pas.
Bon, à suivre. Alors, ce retour, qu'est-ce que tu peux aller nous dire en grande ligne, sans nous dévoiler quoi que ce soit, évidemment. Elle fait son retour pour le meilleur et pour le rire.
Pour le meilleur et pour le rire, bravo. Oui, oui, toujours, toujours, toujours dans la drôlerie, mais c'est difficile. Là, il y a un problème qui va
tomber dessus.
Important, oui, oui, important. Malgré elle, est-ce que c'est elle qui a fait un mauvais coup? Est-ce que c'est pas elle? On a vraiment, on est toujours en suspens. On se demande, on est certain que c'est elle, et en même temps, on est sûr que c'est pas elle. Donc vraiment,
c'est sur un fil.
C'est sur un fil. On est vraiment en funambule, hein. Et même elle doute d'elle-même et elle sait plus trop où elle est.
Donc, c'est ça qui est génial à jouer.
C'est ça qui est génial à jouer. Oui, oui. Alors il y a un problème avec la galerie. Conséquent, il y a quelque chose de grave qui va se passer là-bas. Voilà, c'était formidable à jouer en tout cas. Et Maxence, enfin Ulysse, hein, qui fait Ulysse, Ulysse et Alix, ce sont un duo un peu plus ensemble. En fait, ils sont vraiment en accord là. Ils sont, c'est pas que son assistant, ça peut devenir peut-être un associé.
On va suivre ça, associé. Bien évidemment.
C'est un grand mot, associé, mais en tout cas, il la suit un peu plus. Il y a plus d'empathie entre les deux personnages. On a amené une amitié autre. Et voilà, il va devoir aider Alix parce que là, elle est vraiment...
au bord du gouffre.
Mais même si elle est au bord du gouffre, elle garde toujours ce petit espoir au fond d'elle.
Nous aussi, parce qu'on sait qu'elle va retomber sur ses pattes.
Bah, comme un chat.
C'est bien dit. Merci Nadia, en tout cas, d'avoir été avec nous. On te retrouve évidemment dans un si grand soleil. Si vous ne pouvez pas attendre... Le vendredi, il y a les 5 épisodes de la semaine d'après sur France.tv. Et puis à 20h45, évidemment, du lundi au vendredi sur France 3, ne manquez pas les aventures d'Alix, Ulysse et tous les autres, évidemment, puisqu'Alix fait son grand retour dans la série après quelques petites semaines de mise au repos. Merci beaucoup.
Voilà, mais merci beaucoup. Ça, c'est très touchant. Donc, merci à vous tous d'abord de regarder Un si grand soleil, bien sûr, que tous les soirs vous êtes là. Et merci beaucoup de prendre le temps de regarder et de vous amuser.
Merci Nadia, on se retrouve très vite, en tout cas pour de nouvelles aventures. On écoute Un si grand soleil, tiens, la bande-annonce est maintenant.
Je viens de Marseille, et si on m'avait demandé mon avis, je serais restée là-bas.
Ok.
Vous pourriez me montrer la vôtre?
Vous voulez bien chez moi, voir ma piscine?
Non, mais c'est pas une soirée, vous avez mal compris.
T'as vu, c'est mignon, il me prend pour des cons.
Après, on sera tranquille. Hein,
tu crois que ce genre de femme a une parole, toi?
Et notre coup de cœur télé est consacré à Nouveau Jour. Oui, on ne lâche rien jusqu'à la fin. Nouveau Jour, vous pouvez suivre, bien sûr. On rappelle la série sur M6 et sur M6+, bien évidemment, pour les fans. Et il y en a, je peux vous le dire. Dabi Sey est avec nous, qui joue Roméo. Bonjour Dabi.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Avec grand plaisir, Inès Toroglosia, qui joue Kim.
Bonjour.
Tu n'es pas écorché?
Toroglosia.
Toroglosia.
Voilà, c'est ça.
Il n'y a pas de oui, voilà. Merci à tous les deux d'être là. C'est une aventure incroyable, intégrée une quotidienne, pleine de rêves, pleine de choses. Et puis, ben voilà, il se passe ce qui se passe, la série va s'arrêter. Mais je pense que vous allez garder de sacrés souvenirs, parce que frères et sœurs, on va dire que la relation n'a pas toujours été simple, hein, entre les deux, là.
Exactement. Disons que Kim a un caractère un peu particulier, que Roméo supporte peu, mais bon, c'est sa sœur, donc il l'aime quand même. Et je pense qu'on ressent quand même l'amour à travers la série entre les deux personnages, malgré les tensions apparentes certaines, on va dire.
Et Kim a vraiment eu un parcours tumultueux. Hein.
Oui, c'est ça. Bah, c'était assez intense de jouer Kim. C'est vrai que j'ai démarré de suite avec mon arche, où il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de scènes très intenses à jouer. Mais du coup, ça nous a mis dans le bain directement. Et moi, ça m'a beaucoup aidé là pour la suite et pour tout ce qu'on est déjà encore en train de tourner dans mon parcours personnel, pour le cheminement de mon personnage. Donc du coup, j'ai fait le lien directement avec Dabi, donc avec Roméo, avec ma mère, même si on n'a pas tourné tout de suite ensemble. Mais quand on s'est vu et qu'on a commencé à tourner ensemble, comme ça a été directement très explosif, ah bah du coup maintenant ça peut que rouler quoi.
Alors faut dire que ce personnage haut en couleur, hein, à la limite de la méchanceté, à la limite vraiment de la peste de service, et qui au fur et à mesure du temps m'a aussi attaché à cette peste. Et on l'a compris parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'elle avait enfouies en elle, notamment à cause de la mort de son père.
Oui, c'est ça. C'est une façade, en fait, Kim, c'est une écorchée vive. La mort de son père, ça a été extrêmement violent pour elle et je pense qu'elle avait pas l'impression d'être comprise, d'être écoutée. Elle a eu l'impression d'être lâchée par son frère. Elle a besoin d'amour, en fait. De toute façon, j'ai l'impression que c'est général, hein. Dès que les gens sont un peu violents comme ça ou irritables comme Kim, bah, c'est juste qu'ils ont besoin d'amour, tout simplement.
Et alors, Dabi, franchement, Roméo, on l'adore, c'est le beau gosse, c'est celui qui s'assume pleinement, ça fait du bien, il essaye de pas trop faire attention aux critiques, à tous les haters qui sont autour de lui. Et c'est vrai que Roméo, c'est un personnage auquel on s'attache et je suis sûr qu'il a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et je suis sûr que tu as eu beaucoup de témoignages dans ce sens.
En effet, j'ai eu pas mal de témoignages dans ce sens. Je pense que les gens ont apprécié parce qu'en effet, comme vous dites, il s'assume, il est assez solaire aussi. Je pense que ça joue le fait que... bah, il soit heureux, il essaie de dégager cette bonne énergie. Et ouais, je pense qu'il a un bon cœur, tout simplement, en fait. Et que c'est pour ça que les gens l'aiment. Le côté mort du papa aussi, je pense, émeut aussi les gens. Parce qu'on ressent ça, ça l'a beaucoup atteint. Je pense juste qu'il a, par rapport peut-être à Kim, il essaie encore plus le cacher. Mais dans le fond, ça reste quand même dur pour lui.
Sa relation avec Liam, alors ce qui était assez drôle dès le départ quand même, et ce qui était à la fois émouvant, c'est de retrouver ce personnage qui s'assume, qui s'habille par moments en femme, et qui fait face à Liam, qui est vraiment, voilà, lui, policier, qui est dans un métier où que bah, c'est même pas bien de dire et d'avouer ce genre de choses. Et pourtant, ces deux personnages vont se trouver.
Exactement. Et c'est pour ça, je pense aussi que les gens ont apprécié la relation entre les deux, parce qu'elle est sincère, malgré leurs différences, et ils se sont bien trouvés. Je pense qu'à l'écran, les deux sont plutôt cool, passent bien, donc ouais.
Moi, j'adore le couple Roméo-Liam. Je les adore aussi en dehors de leur personnage. Je trouve que c'est génial que ce soit mis en avant. Je les trouve beaux et touchants, vraiment, dans leur histoire et dans tout ce qu'ils vivent. Les échecs, puis après, la reconquête et l'amour qui s'arrête jamais et qui est à travers tous les regards et tous les avis. C'est génial.
Je tiens à dire que Thomas aussi, Thomas Brazet, qui joue du coup Liam, est un très bon acteur et il donne beaucoup et c'est vraiment incroyable de jouer avec lui.
On l'adore aussi. Alors c'est vrai que Kim, elle, a trouvé du réconfort auprès de Jean-Baptiste Monnier. Ces deux personnages, torturés en tout cas, se sont trouvés.
Oui, concernant Jean-Baptiste Monnier, c'est quelqu'un de génial. J'adore tourner avec lui. Il a un côté un peu, pas paternel, mais comme mon grand frère, qui a déjà un bon pied dans le métier. On peut pas le nier. Donc du coup, bah, il m'a beaucoup conseillé. On adore tourner ensemble. Je l'adore, c'est trop cool.
Bon, alors que la fin arrive à grands pas, qu'est-ce que vous retiendrez de cette aventure ?
Alors personnellement, des rencontres incroyables. Premièrement, notre force c'était la cohésion de groupe. Vraiment, ça s'est fait si naturellement et on a tous une cohésion qui est assez incroyable. Donc je retiens ça. Je retiens aussi le fait que, bah, malgré tout, tourner dans une quotidienne c'est super formateur. C'est une super école. On tourne énormément, on a beaucoup de textes et du coup ça nous force à être prêts en toutes circonstances. Donc ouais, je dirais super école, incroyable rencontre, tout simplement.
Dabi a vraiment tout dit. Vraiment, il a tout dit. C'est ça, c'est la cohésion. En fait, c'est comme une troupe de théâtre, à force de se voir tous les jours, quasiment, de vivre dans la même ville, de se retrouver le soir après nos heures de tournage intenses. Bah, du coup, on crée des liens, on sort ensemble, on s'aime comme une famille, comme une troupe de théâtre, on travaille ensemble, on commence à trouver notre rythme. C'est dommage que ça s'arrête maintenant. On est tous hyper déçus de pas avoir eu le temps de pouvoir s'installer encore plus. Mais on a tout donné. Moi, je suis fière de tout le monde, de nous tous. On est trop forts et on s'aime tous vraiment, vraiment fort. C'est vraiment notre force. Il a tout dit.
C'est vrai que vous pouvez être en tout cas fiers de vous tous parce qu'on a eu des belles intrigues. Visuellement, c'était très beau, ça jouait bien. Et c'est vrai qu'on s'est régalé en tout cas et on va continuer à se régaler encore pendant quelques semaines pour découvrir la suite évidemment et le final. Je suis sûr qu'il y a plein de belles scènes qui resteront en mémoire. Puis maintenant, il y a plein de choses qui vont arriver pour vous, hein. J'en suis sûr, hein. Parce que là maintenant, vous êtes prêts à y aller, quoi.
Ah oui, on est prêts, on espère, hein. On espère que ça va continuer comme ça. Dans tous les cas, on lâche rien et c'est le métier qui rentre. C'est comme ça, c'est la réalité de notre métier aussi. On tourne et puis après, on tourne plus. Il faut se relever. Donc en vrai, c'est ok, hein. Maintenant qu'on est bien formé et qu'on est prêt, il faut y aller, il faut rien lâcher.
Absolument. t'as tout dit aussi. Je pense que ouais, on va continuer à travailler, essayer de faire tout simplement notre passion au final, parce que c'est une passion ce métier. Donc voilà, on va bosser, on va espérer continuer à travailler.
Dernière question, importante quand même. Comment vous avez réagi quand au moment où la série a été arrêtée, de voir les fans comme ça vous défendre, carrément créer des pétitions pour sauver la série? Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là? On a touché le cœur des gens?
Ah oui, complètement. On s'est dit, on a touché le cœur des gens. C'est en train de prendre. Les gens commencent à vraiment rentrer dans la série. C'est normal, c'est humain. Il faut laisser le temps aussi aux gens de prendre une nouvelle habitude, de s'attacher à nous. C'est complètement normal. Donc, on a été d'autant plus frustrés, en fait, parce qu'on s'est dit, on laisse les gens au bord de la route, en fait, on les abandonne. Donc, on est super déçus, mais extrêmement touchés. On avait un petit peu la larme à l'œil quand on regardait tous les jours. Enfin, moi, je regardais tous les jours le nombre de signatures augmenter sur la pétition et je me disais, mais c'est incroyable. Mais bon, ça n'a pas été un argument pour les décisionnaires, malheureusement.
Ouais, exactement. Émouvant et frustrant, en vrai. S'il y avait deux mots, ce serait ça. Émouvant parce que forcément, les gens nous disent à quel point ils aiment la série. Nous, on est émus du fait de se quitter, de savoir que tout va s'arrêter, entre guillemets. Frustrant parce que, on sait qu'on produit un travail qui est qualitatif. Et du coup, le fait que ça s'arrête et de pas avoir la chance de pouvoir proposer une saison 2, forcément, ça nous frustre. Surtout en fait quand on sait que les gens et le public apprécient quoi.
Vous allez voir, c'est une vitrine pour vous, j'en suis sûr, et que vous allez pouvoir capitaliser là-dessus. Merci beaucoup Inès, merci Dabi d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve j'espère très bientôt, on sera là pour vous en tout cas. À bientôt.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci beaucoup.
Précédemment, la première chose que j'ai faite, c'est de venir te chercher. Et Lucien m'avait fait signer des papiers quand j'étais en désintox, j'avais plus aucun droit sur toi.
Bah, écoute, peu importe toutes vos histoires, ça changera pas ma vie maintenant.
Audrey, rassure-moi, c'est pas pour toi. Ça, pour moi, mais ça va pas. Attends, Sophia, je m'en suis tirée, et c'est pas pour plonger.
J'ai un plan. J'ai fait croire à Max que je voulais retourner avec lui. J'ai fouillé tout son appartement.
C'est la clé de son box?
Attends, c'est quoi ce délire?
Suzanne, c'est peut-être une autre victime.
Il se passe quoi ici?
Épouse-moi vendredi, comme prévu. C'est oui.
Allez, notre invitée, c'est Laetitia Millot qui nous rejoint avec son nouveau roman Sur nos chemins. Roman très personnel. Merci d'être avec nous, Laetitia.
Oh, merci à vous d'être venue me voir déjà.
Tu sais qu'on est toujours là pour toi. Et c'est un nouveau roman, on le disait, très personnel, avec vraiment deux trajectoires de deux femmes éprouvées par la souffrance. L'endométriose, toujours ce combat que tu mènes depuis maintenant des années.
Oui, mais en fait, c'est un combat effectivement que je mène depuis des années. Mais en fait, Sur nos chemins, publié chez Lafon, il y a plein de sujets en fait dont j'ai jamais parlé avant. C'est-à-dire, j'ai vécu des choses ces derniers mois, ces dernières années, que j'avais jamais trop osé en parler parce que peut-être je me disais que c'était pas le moment d'en parler. Et là, j'étais enfin prête pour en parler parce qu'en fait, j'ai eu un appel à l'aide. Et donc, du coup, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. En fait, à un moment donné, ok, c'est notre combat, on se bat, on en parle. Mais là, à un moment donné, l'endométriose et l'adénomyose amène des conséquences beaucoup trop graves et beaucoup trop tragiques pour que ça puisse continuer ainsi.
Il faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin, il faut en parler, il faut se battre. Ce livre est pour la jeune génération, il est pour éveiller des consciences, il est pour mettre un coup de poing dans la fourmilière et pour tirer une sonnette d'alarme, vraiment. Parce qu'il est temps d'agir.
Alors c'est un livre que tu as magnifié jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu as fait quelques petites modifications. Tu l'as vraiment personnalisé jusqu'à la fin.
Jusqu'à la dernière minute, en fait. Je vous dis, l'édition me disait, à telle heure, il faut nous rendre le script et tout le manuscrit. Et donc du coup, je vous jure, mais jusqu'à, ils pourront vous le dire, jusqu'à la dernière minute, je modifiais des mots, j'apportais encore d'autres mots parce que c'est un nouveau bébé et c'est vrai que il est tellement fort, je mets tellement ma vie en fait à l'intérieur. Je retrace ma vie, je retrace la vie de Rose, donc deux histoires vraies. Et donc du coup, j'avais tellement la pression de devoir ramener tout cet espoir, cette lumière, cette résilience que chaque mot est pesé en fait.
J'ai l'impression que plus tu écris, plus ça te fait du bien.
Oui, déjà, évidemment, de toute façon, l'écriture, c'est la meilleure thérapie. J'invite vraiment tout le monde à écrire le plus possible parce que c'est une des meilleures thérapies.
Un exutoire.
Ouais, exactement. Mais c'est vrai que là, en fait, par exemple, vous voyez, je parle de mon ablation de l'utérus et je mets des mots. En fait, vous voyez, lorsque j'ai écrit ce livre, c'est marrant parce qu'il y a des mots qui changeaient au fur et à mesure que j'écrivais le livre. Je pensais d'une telle manière avant d'écrire. Et je pensais d'une autre manière à la fin de mon écriture. Et c'est ça aussi, c'est tous ces mots que je changeais, que je modifiais, parce que je voulais mettre toute cette force à l'intérieur et je voulais vraiment que les gens puissent se reconnaître à travers mon parcours et à travers le parcours de Rose.
Deux parcours que vous allez pouvoir suivre, en tout cas dans ce très beau roman Sur nos chemins. C'est le nouveau roman de Laetitia Millot. Évidemment à découvrir, Le meilleur pâtissier continue et là, qu'on se régale toutes les semaines sur M6. Et j'ai l'impression que là aussi, tu prends un plaisir fou plus ça va, plus tu es à l'aise.
Ah bah ouais, écoutez, c'est ma deuxième année en tant qu'animatrice et effectivement, ça y est, maintenant je suis à l'aise dans mes pantoufles.
Et alors c'est pas fini non plus parce que voilà, nous on soutient jusqu'à la fin la série, jusqu'à la dernière goutte, on sera là. Nouveau jour continue jusqu'à fin décembre sur M6+, où on peut évidemment déguster un épisode chaque jour du lundi au vendredi sur la plateforme. Et c'est vrai que voilà, c'est une aventure bien trop tôt avortée, mais où t'as défendu les femmes battues, les femmes sous emprise d'une manière absolument prodigieuse.
Bah écoutez, en plus pour moi ce n'était pas qu'une interprétation. J'espère qu'en fait ce rôle, enfin, ce personnage du coup a apporté ne serait-ce qu'une aide, une alerte, que ça a pu faire agir peut-être au moins une personne. Si ce pari a été réussi, ben, pour moi ça a été réussi.
Emilia en tout cas restera dans nos cœurs en tout cas. Allez, Sur nos chemins, c'est le roman de Laetitia Millot à ne pas rater. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Laetitia, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, c'est une belle idée cadeau pour ces fêtes de fin d'année. Nous recevons Agustin Galiana qui nous propose son livre Un homme debout aux éditions Le Duc et qui est avec nous, mon cher Agustin. Bonjour.
Comment ça va, Alain?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très heureux de te retrouver en cette fin d'année parce qu'avant les fêtes, c'est le cadeau idéal pour en apprendre plus sur toi. Un livre personnel, Un homme debout. C'est toi qui te racontes à travers toutes les expériences que tu as pu vivre, heureuses, malheureuses, les hauts, les bas, à travers ce livre.
Bah, comme n'importe quel livre. Hein. Sauf que voilà, j'ai voulu appeler ce livre Un homme debout parce que je trouve que c'est un titre qui résume bien ma vie, c'est-à-dire toutes les fois que je suis tombé, toutes les fois que j'ai chuté, les fois que je me suis trompé, des erreurs que j'ai fait, des moments difficiles que j'ai vécu. Et du coup, même avec ça, je me suis relevé. Voilà, j'ai continué à marcher et à essayer de vivre, tu vois.
Une belle leçon de vie quand on chute comme ça. C'est une vraie leçon au fait de se dire on peut se relever même au plus bas. Où c'est que tu puisses ces ressources toi dans ces cas-là?
Moi, la façon que j'ai trouvé pour me relever, ça a été toujours de m'accrocher à ma passion, d'essayer de trouver des choses qui me rendaient heureux. Pour moi, c'est l'unique formule qu'on peut trouver pour pouvoir sortir de trous noirs. C'est-à-dire trouver des choses que tu as envie de faire, trouver des choses qui te font plaisir, trouver des choses qui te font sourire. Donc voilà.
Tu dédicaces ce livre à ta sœur, Maria?
Oui, tout à fait. Oui, ma sœur Maria, ma grande sœur qui est décédée quelques jours après sa naissance. Et voilà, donc je trouve que comme elle n'a pas eu sa place dans la famille parce qu'il n'y a même pas des plaques au cimetière, ma mère et mon père, ils ne m'ont jamais parlé d'elle, sauf quand j'avais 40 ans. Donc j'ai trouvé que c'était une belle façon d'honorer voilà, sa place dans la famille et voilà, de lui donner vraiment une place et de la faire exister d'une façon ou d'une autre grâce à ce livre.
Aujourd'hui, Agustin, est-ce que tu es pleinement heureux dans la comédie, dans la musique, dans tout ça? Est-ce que c'est ça qui, aujourd'hui, est la clé du succès? C'est de faire ce qu'on aime pour tenir debout, justement?
Ben, ce qui nous fait tenir debout, je pense que c'est d'être en paix, c'est d'être aligné avec soi-même, c'est demander pardon aux autres quand on a fait des erreurs. C'est-à-dire d'être en paix, d'être en harmonie, d'être soi-même, de s'accepter. Avec ses failles, avec ses erreurs, avec les choses bien qu'on fait. Donc aujourd'hui, j'écris ce livre parce que je suis aligné. Je me retrouve dans un moment de ma vie où j'ai fait un grand travail personnel et j'ai pu écrire ça grâce à ça.
C'est dur d'être fracassé par la vie par moment et de devoir, quand on est artiste, tout le temps show must go on, faire bonne figure tout le temps. Quand on est sur scène, quand on est sur un plateau, il faut tout oublier, il faut laisser tous les problèmes au vestiaire. Et c'est ça aussi, des fois, la difficulté de ce métier.
C'est la difficulté et c'est aussi la chance, parce que c'est grâce aussi à être sur scène, à être sur un plateau de télé, sur un plateau de cinéma, c'est grâce à tout ça aussi qu'on peut oublier tous les soucis et se concentrer sur des choses qui nous font du bien. Si tout le monde, si chacun d'entre nous, on serait concentré sur quelque chose qui nous fait du bien, on aurait beaucoup moins de problèmes et beaucoup moins de conflits.
C'est clair. La musique ou la télé, sans avoir à choisir, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu te sens mieux?
Tu sais, c'est des exercices différents, je peux pas choisir. Je pourrais te dire que j'aime bien jouer le matin et chanter le soir. Donc
ça, c'est pas mal, ça c'est clair. Les grands projets pour Agustin 2026?
Bah, je peux pas encore parler, mais il y a des fictions qui arrivent, donc et la musique, et j'espère que le théâtre aussi, je suis en train de caler tout ça.
Donc 2026 va être chargé?
Ça va être une belle année.
cas, on te souhaite de belles fêtes de fin d'année. Profites-en bien. Nous, on vous invite à découvrir Un homme debout aux éditions Le Duc pour ces fêtes de fin d'année. Le livre d'Agustín Galeana qui est dédicacé voilà, à sa sœur. En tout cas, tout quitter, repartir de zéro, croire en son étoile. C'est vrai que c'est des jolies phrases et qui peuvent aider peut-être pas mal de monde qui vont se reconnaître ou s'identifier. Mon cher Agustín, on va se quitter en musique. Moi, j'ai envie qu'on t'écoute chanter une chanson de toi. Laquelle t'as envie qu'on passe là maintenant?
Bah écoute, tu peux passer Enamorado si tu veux de mon dernier album.
Ah oui, tu sais qu'on adore t'entendre chanter aussi. Merci mon cher Agustín, à très vite.
Voilà, à la prochaine.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Horizon, ton écho, perdu dans la soie. Mon amour, pour toujours, sans foi ni loi. Ton parfum, les embruns de tes vagues à l'âme. Mon livre m'attire, je jette les armes. Et on arrête le temps de quelques heures. Défile le vent, la rancœur et les peurs. Sous tes yeux, je redeviens l'enfant qui t'offrait des fleurs le temps d'un instant. Enamorado, je me perds sur ta peau. Tout est chaos, le cœur à flot de vent. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado, oh 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 oh. Enamorado, oh 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 oh. Le velours de ta voix, un charme fou. Autour de nous, tout devient flou. Tu es dangereuse quand tu es amoureuse. Et je perds la tête, ton petit jeu m'entête. On arrête le temps de quelques heures. Défile le vent, la rancœur et les peurs. Sous tes yeux, je redeviens l'enfant qui t'offrait des fleurs le temps d'un instant. Enamorado, je me perds sur ta peau. Tout est chaos, le cœur à flot de vent. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado. Je me perds sur ta peau. Tout est chaos, le cœur à fleur de mots. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado, je me perds sur ta peau. Tout est chaos, le cœur à fleur de mots. Enamorado, toi mon Eldorado, tout est plus beau. Enamorado.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Dites-lui que je l'aime de Roman Boringer qui est avec nous aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Roman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et qui vient avec une de ses comédiennes, Eva Yelmani. Bonjour Eva.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un film très personnel, Roman, que j'ai pu découvrir au festival d'Angoulême il y a maintenant quelques mois. J'avoue avoir été à la fois perturbé, séduit par ses destins croisés avec Clémentine Autain, députée. Comment est venue l'idée d'adapter justement le livre de Clémentine ?
En fait, je crois que comme spectatrice, et ce depuis toujours, j'ai toujours été vraiment profondément bouleversée par les films qui traitait de l'enfance meurtrie, des films comme L'Incompris, Ponette, le film de Doyon, Party Girl, Une femme sous influence, plein de films ont jalonné mon parcours de spectatrice, et à chaque fois le bouleversement était tel, je ne le savais pas encore, mais c'était parce que c'est finalement un sujet qui me touche de très près et qui me préoccupait beaucoup, puisque j'ai grandi sans ma maman. Donc ça, c'est mon parcours de spectatrice, ça a été vraiment marqué par des films qui traitaient de ce sujet, la mère, l'absence de mère, devenir mère, comprendre, pardonner, réparer. Mais tout ça, je ne le savais pas. Et quand j'ai lu le livre de Clémentine Autain, qu'elle a écrit sur sa maman, Dominique Lafin, magnifique comédienne disparue tragiquement jeune, Clémentine a écrit ce livre bouleversant sur l'enfant qu'elle a été et la femme qu'elle a essayé de devenir malgré l'absence de cette mère. Et quand j'ai lu son livre, il m'est apparu vraiment comme un choc, une évidence que c'était la même histoire que la mienne et que sans doute des milliers d'autres. Comment se réparer de cette absence qui finalement ne cesse de se rappeler à vous. Il y avait dans le livre de Clémentine tous les mots que moi je n'arrivais pas à exprimer de ma propre histoire. Donc je me suis dit, tiens, maintenant que je suis réalisatrice, je vais m'emparer du livre de Clémentine et je vais l'adapter pour le cinéma. Chemin faisant, pendant l'écriture, ce film est devenu un récit croisé de nos quatre histoires, je dirais, c'est-à-dire celle de Clémentine, la mienne, et celle de nos mamans, Dominique et Marguerite. Deux portraits de femmes, mais deux portraits aussi de jeunes enfants, qui elles étaient, comment elles ont grandi, et qu'est-ce qu'elles sont devenues. Et comment on se remet de ce manque abyssal et de ce trou permanent, qui on devient, comment on devient mère nous-mêmes, avec cette inconnue, quoi, enfin, qui fait partie de notre histoire. C'est à la fois une histoire très personnelle, mais j'avais vraiment secrètement le désir absolu, parce que évidemment, je fais pas du cinéma pour moi. Donc j'avais le désir absolu qui rejoigne quelque part d'autres histoires que les nôtres, c'est-à-dire qui réparent, qui répondent, parce que je me suis rendu compte que dans plein de livres que j'ai lus sur les familles, sur les orphelins, à quel point les mêmes traumas provoquent chez les êtres des choses qu'on a en commun très très fort, quoi.
Moi, c'est ça qui m'a perturbé, c'est de voir à quel point vos destins, vos trajectoires de vie étaient tellement quasi similaires toutes les deux, et à la fois qu'elles pouvaient parler à plein de monde, qu'elles pouvaient être est extrêmement universel dans les personnes qui ont pu perdre leur mère jeune.
Ou leur père.
Oui, tout à fait.
C'est quoi d'être un enfant triste, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi, comment on se remet de ce chagrin, de cette tristesse, de la colère que ça nous laisse, de l'impression de ne pas avoir été aimé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la mémoire nous fait défaut?
Ça interroge plein de choses.
Donc il y avait ça, mais au même titre que mon premier film, L'amour flou, quand j'ai voulu écrire sur notre séparation avec Philippe, le père de mes enfants, c'était tellement pas pour nous raconter que nous, j'avais l'impression que ça racontait plein d'autres vies, et parce que c'est si impudique de faire un film sur sa propre histoire, et pourtant je suis quelqu'un dans la vie de si pudique, je suis moi-même étonnée finalement de porter à l'écran.
De vous avoir livré ça.
Ouais, je suis moi-même étonnée, mais je crois que si je l'ai fait, c'est parce que j'avais l'impression que ça pouvait parler à tous les enfants. Voilà, et c'est mu par cet espoir très fort, j'ai douté plein de fois, mais c'est mu par cet espoir que cette histoire en raconte mille autres que j'ai réussi à faire ce film.
Alors, on va suivre les destins croisés, justement, de vous deux, de Clémentine et Romane, à travers les mamans, par flashback. Et c'est là que Eva, tu rentres en ligne de compte, t'as des scènes d'une extrême énergie, on va dire, par moment, comment on se prépare, justement, à rentrer dans cette énergie, et en étant guidé, en plus, par la fille de la personne que tu joues.
Ah, c'est assez délicat, parce qu'en plus, je suis quelqu'un d'assez introverti, donc, en fait, de gueuler ou de ce genre de scène, c'est vrai que pour moi, c'était assez terrifiant avant de la faire. Mais en même temps, ça a été tellement beau parce que j'ai rencontré Romane dans la rue. On s'est recroisés déjà 10 jours après. Enfin, rien que la rencontre était assez extraordinaire. Enfin, Romane m'a vachement aidée, m'a vachement conseillée. Et même déjà en tant qu'actrice, j'adorais ton travail et je pense que j'avais une confiance. Il y avait un truc qui était assez dingue. Et voilà, après, je sais pas vraiment comment ça se fait. Je sais pas.
En tout cas, ça envoie.
Je me suis dit, mais je suis complètement tarée, ça.
Je suis complètement tarée. C'est pas mal, ça. Dites-lui que je l'aime. On va le voir, hein. C'est au cinéma. C'est ce mercredi. Vous allez découvrir, en tout cas, un destin bouleversant. Celui de Romane et de ce qui pourrait être de plein d'enfants aujourd'hui. Et de Clémentine Autain. On va écouter la bande-annonce et puis on revient juste après avec vous deux. À tout de suite.
Il est 1h du matin. Je suis seule dans la maison. Les assiettes déborde de l'évier.
C'est marrant parce que c'est exactement comme ça que je pourrais décrire l'appartement de ma mère.
C'est quoi, maman ?
Je lis des trucs que ma maman a écrits. Dans ses cahiers, elle écrit « Je suis née à Saïgon, d'une mère vietnamienne et d'un père corse. Je ne les ai jamais connus. »
Et vous n'avez pas envie de l'interroger là-dessus ?
On ne parle pas trop de ça avec mon père. Pourtant, j'en aurais des questions à lui poser. Il y a de la beauté là-dedans.
Allez, dites-lui que je l'aime, le film bouleversant de Romane Boringer à découvrir donc mercredi dans les salles. Romane, on disait, c'est quelque chose de très intime que tu livres pour le coup sur ce film, mais avec ce destin justement croisé de Clémentine Autain, est-ce qu'elle a été facilement, on va dire avec toutes les responsabilités qu'elle a en tant que députée aujourd'hui, est-ce qu'il a été difficile de la décider à participer au film ?
Alors vraiment, ce film existe parce que son chemin a été pavé de miracles, vraiment. Dans ma rencontre avec Eva, dans ma rencontre avec Liliane qui joue la petite enfant, le miracle de ma rencontre avec Clémentine. C'est une femme, alors certes politique, bon, là on est vraiment très loin de enfin, ça n'a...
En dehors de toute étiquette.
Mais c'est vrai, c'est une femme politique donc, dont on sait que la moindre chose qu'elle dit, qu'elle fait, est scrutée, commentée. Qu'une femme dans cette position ait accepté de me livrer avec une telle liberté.
Avec ses fêlures, etc. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Son livre, sa vie, le choix de choisir qui incarnera sa maman. Clémentine, un jour, m'a dit « Ok, je te cède les, enfin, je donne les droits de mon livre, c'est toi qui le feras au cinéma. Fais-en ce que tu veux. » Jamais elle ne m'a demandé quelle route j'empruntais, dans quelle direction aller filmer. Il faut que vous sachiez qu'au départ, j'ai mis très longtemps à écrire le scénario, au départ, le scénario ressemblait pas du tout au film comme il est aujourd'hui. Clémentine ne devait pas jouer dans le film. Ça devait être une actrice qui devait l'interpréter et tout ça. Et puis, le scénario a pris une autre, et il s'est avéré que personne ne pouvait jouer son rôle à sa place. Quand je l'ai appelée pour lui dire ça, est-ce que tu veux bien finalement, être filmée, je peux pas vous dire, pour faire trop long, c'est un long cheminement,
Les trois essais qu'on voit justement des trois comédiennes qui testent.
Ouais, c'était un peu pour résumer. Quand j'ai lu le livre de Clémentine, au début, j'ai pensé en faire une fiction. J'ai pensé que je ne jouerais jamais dans mon film, parce que je voulais adapter strictement le livre de Clémentine. Et puis, mon histoire à moi s'est invitée dans la sienne, parce que finalement, il m'était impossible de faire un film sur la mère sans convoquer la mienne et sans raconter ma propre histoire finalement. Mais au début, j'étais sincère dans mon idée. Donc, j'ai commencé à chercher des comédiennes pour jouer Clémentine. Et dans mon film, j'ai voulu raconter un peu aux spectateurs aussi le processus que ça a été d'essayer de faire une fiction et puis de ne pas y arriver complètement. Parce
et de
que
se livrer finalement à cœur ouvert.
Et de finalement accepter de se livrer complètement. Pour ce qui est de Clémentine, elle m'a offert son livre, elle m'a offert une liberté totale dans mes choix, dans le fait que j'ai quand même complètement déstructuré son livre. Je n'en ai pris que certaines parties, je l'ai interprété à ma manière. Je peux pas vous dire, Clémentine, en ça pour moi, elle est punk, elle n'a eu peur de rien, jamais.
Raoul non plus.
Ah, Raoul. Raoul.
Raoul. Raoul Bourringer-Rebeau. Oui. Oh. Incroyable.
Oui, mon fils. En fait...
Il se verrait bien shérif, hein, quand même.
En fait, mon film, j'avais envie que dans mon film, j'avais envie de pouvoir m'appuyer sur beaucoup de cinéma que j'aime. Je suis très écartelée dans mes goûts au cinéma. Je suis une passionnée des films où la réalité traverse la fiction, comme les films d'Agnès Varda. Je suis une passionnée des films d'Alain Cavalier, qui sont d'une austérité, d'une droiture incroyable. Mais j'aime aussi les romanesques. J'avais envie que tout soit dans mon film. C'était très difficile. Et j'ai nourri l'espoir que tous ces gens pourraient cohabiter. Et j'avais envie que l'enfance soit présente dans mon film à travers mon fils, qui joue donc mon fils, qui va, d'une manière tout à fait personnelle et enfantine, quelque part faire le même trajet que je fais dans le film. Moi, je vais à la rencontre de ma mère et de mes origines, et quelque part, dans une partie du film, mon fils se transforme et va lui aussi faire sa propre enquête. Et
en enquêteur de choc.
Voilà, et remonter aux origines. Et là, j'avais envie d'emprunter au film de kung-fu, au film d'aventure, au film de... J'avais...
Avec une jolie scène tournée dans le petit train des Cévennes, d'ailleurs.
Donc, c'est difficile d'expliquer aux spectateurs comme ça comment tous ces genres de films peuvent cohabiter ensemble. Mais c'est vrai que pour moi, Raoul, dans le film, il est l'héritier de mon histoire. C'est le petit-fils de ma mère. Lui, il ne savait rien de son histoire, puisque moi-même, j'en savais si peu. Donc, le film, c'est aussi une manière de leur léguer ça, leur histoire. Et dans le film, il incarne l'héritier de cette histoire.
Romane, à quel âge t'as appris que t'avais des jumeaux, demi-frères et sœurs ? C'est réellement là, il n'y a pas longtemps ?
Alors c'est un peu plus loin que dans le film, mais c'est il y a 7 ans.
Ah oui, c'est pas si loin que ça finalement.
C'est pas très loin. Non, c'est pas très loin.
C'est dingue, en tout cas cette scène de retrouvailles, elle est hyper marquante aussi, hyper touchante de voir faire effectivement ces retrouvailles, de retrouver, c'est les vrais j'imagine qui ont joué leur rôle.
Extraordinaire, c'est d'avoir réussi à embarquer dans le film les vrais témoins de cette histoire. Ça a été une émotion folle de filmer des gens qui n'ont jamais vu une caméra, qui n'ont jamais et qui ont accepté de me livrer une part de leur histoire et tourner avec eux, c'était réunir les conditions pour qu'ils se sentent bien, en confiance, heureux. Ce qui était génial dans dans tourner ce film, c'est que on pouvait emprunter à tous les genres. Avec Eva, j'avais l'impression de filmer des scènes comme moi je les ai aimées au cinéma, des scènes où il y a des grands personnages comme ça, féminins, de mères, et puis tout d'un coup de plonger dans la vérité en allant interviewer des vrais témoins de nos histoires.
Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas le mot de la fin, qui est commune à vous deux, à Clémentine et à toi Roman. Dites-lui que je l'aime, tout simplement, c'est un beau message final en tout cas, qu'on va vous inviter à aller découvrir en salle ce mercredi, le film de Roman Bourringer à ne pas manquer. Merci en tout cas Eva, merci Roman d'être venu nous voir, et puis on vous souhaite tout plein de belles choses pour la sortie du film. C'est dans 2 jours.
Bah ouais, c'est très long de faire un film, c'est un long parcours, et donc c'est merveilleux. Il est tout plein de nos souvenirs de tournage, de préparation, de miracle de se rencontrer, finalement que les choses arrivent, arriver à faire un film, c'est finalement un miracle. Donc le moment où il sort et où il va rencontrer les gens, évidemment, c'est une émotion de dingue.
Mercredi au cinéma. Voilà. Merci beaucoup Roman, merci Eva et à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler du Téléthon, évidemment, qui va officier ce week-end, ce vendredi et ce samedi. Un rendez-vous incontournable désormais en cette fin d'année avec un des administrateurs de la FM Téléthon qui est avec nous. C'est François Lamy. Bonjour François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors le Téléthon évidemment est un rendez-vous incontournable avec de nombreux spectacles, 15 000 communes partout en France qui sont solidaires et qui font des appels aux dons via de diverses manifestations. C'est vrai que le Téléthon maintenant est vraiment ancré dans la mémoire collective des Français comme le rendez-vous incontournable effectivement de l'appel aux dons pour essayer en tout cas de faire avancer la recherche. Et on va dire que depuis des dizaines d'années, la recherche a beaucoup avancé dans ce domaine quand même.
La recherche a beaucoup avancé avec des vraies réussites, des vraies victoires depuis quelques années. Depuis quelques années, on démontre par l'exemple que toutes ces recherches aboutissent à sauver des vies, puisqu'à ce jour, on compte près de 5000 vies sauvées dans une maladie rare qui s'appelle l'amyotrophie spinale, très grave, dans laquelle les enfants atteignent rarement l'âge de 2 ans. Et bien aujourd'hui, ces enfants vivent. Et ils vivent très bien, puisqu'on a eu l'exemple de 2 petites jumelles qui étaient ambassadrices du Téléthon l'année dernière, qui avaient à peine 1 an lors du dernier Téléthon, et qui maintenant font leur premier pas et font la joie de leurs parents, alors qu'elles sont atteintes d'une maladie très grave. Vraiment, c'est un exploit des chercheurs rendu possible grâce au Téléthon, grâce à la mobilisation de tout le monde sur le terrain. Vous l'avez dit, c'est près d'une commune sur 2 qui est mobilisée en faveur du Téléthon. Donc c'est vraiment toute la France qui est mobilisée contre les maladies rares à l'occasion du Téléthon, et un grand merci à toutes les personnes qui se mobilisent, à tous les donateurs et toutes les personnes présentes sur les manifestations. Et on n'oublie pas les bénévoles, c'est près de 250 000 bénévoles qui répondent présents sur le terrain, quelles que soient les conditions météorologiques, pour simplement faire la fête pour le Téléthon.
Oui, parce qu'il faut le dire, Téléthon n'est pas au mois de juillet, il est au mois de décembre, donc des fois c'est vrai que toutes les manifestations qui se déroulent sont des fois sous une météo compliquée, mais en tout cas ça n'empêche pas la volonté et l'énergie des bénévoles, mais aussi bien sûr de toutes les personnes qui se sentent concernées et qui aident aujourd'hui dans les villages, même des fois les plus reculés, et qui participent. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est cette unité autour du Téléthon.
Et c'est vrai qu'il y a un vrai écho de cette mobilisation, de cette fête nationale qu'est le Téléthon envers les malades. Enfin, je suis moi-même parent d'un garçon atteint de myopathie Duchenne, qui est une des maladies emblématiques du Téléthon. Pour lui, tous les ans, ce Téléthon, c'est vraiment la fête. C'est cet espoir qu'un jour, peut-être, il sera guéri. C'est le fait que tout le monde se mobilise qui leur donne aussi à toutes ces personnes malades et leurs familles, j'en fais partie, cette force de se battre au quotidien. Donc, un grand, grand merci à tous. Et il est vrai que les résultats sont là aujourd'hui, et même si on aimerait que ça aille plus vite, on va parler cette année pendant le Téléthon de cet essai justement contre la myopathie Duchenne. Donc c'est la maladie qui touche mon fils, donc j'y suis particulièrement sensible, qui entre dans une phase cruciale, donc c'est la dernière phase de validation d'un essai clinique contre cette maladie. Dans ces phases initiales, il y a notamment un petit garçon qui s'appelle Sacha qui a pu recevoir ce traitement il y a maintenant 3 ans. Eh bien, ce petit garçon, Sacha, donc la maladie de Duchenne, c'est une maladie qui touche les muscles. Les enfants perdent la marche vers l'âge de 10-12 ans, en général. Ils ont une espérance de vie qui dépasse rarement l'âge de 30 ans. Eh bien, ce petit garçon, Sacha, qui a reçu ce traitement il y a 3 ans, cet été, il habite en Alsace, il est venu visiter Paris et il a voulu visiter la Tour Eiffel. Et il a monté à pied les 2 premiers étages de la Tour Eiffel. Donc, ça représente plus de 600 marches. C'est un exploit absolument incroyable quand on connaît un petit peu cette maladie. À titre d'exemple, mon fils, au maximum de sa force, si je puis dire, me tendait la main pour pouvoir franchir une marche de trottoir. Donc de voir un petit garçon qui monte 600 marches, c'est absolument un exploit
voilà, ah, c'est dingue.
Digne d'une Coupe du Monde. C'est complètement dingue. Donc on a de grands espoirs que cet essai clinique puisse se concrétiser et que ça puisse bénéficier à davantage de malades encore, comme ça a été le cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans cet exemple de l'amyotrophie spinale. Donc c'est une vraie révolution médicale qui est rendue possible grâce à la générosité des Français, et voilà, un grand merci à tous.
Je pense aussi que le succès du Téléthon, c'est que évidemment on parle d'un sujet voilà hyper grave, on fait un appel aux dons, on fait avancer des recherches, mais c'est aussi avant tout une fête. C'est ça qui est assez dingue, c'est que ça va être une grande fête pendant tout le week-end sur les antennes de France Télévisions, avec Santa qui sera la marraine du Téléthon cette année. C'est vraiment une fête voilà incroyable, ça se transforme justement dans cette espèce de générosité ambiante et de fête. Je pense que c'est ça aussi peut-être la clé du succès.
Oui, cette fête qui entraîne une sorte de folie un petit peu, du dépassement de soi sur le terrain de tous ces bénévoles, de Santa qui est habitué de faire aussi des exploits de son côté, un peu acrobatique dans sa façon d'aborder la chanson. Et donc on espère qu'elle sera à la hauteur, et je pense qu'elle le sera puisque voilà, elle est vraiment très proche des familles, elle a déjà visité les laboratoires, rencontré les familles, et elle veut se dépasser, elle veut faire péter les compteurs. Hein. C'est vraiment son...
Ah oui, elle est motivée.
Voilà, ça, elle est très très motivée, elle est vraiment à fond. Avec elle, c'est sûr qu'on va tout exploser.
Alors, il y a une grande tombola aussi, ça c'est important d'en parler, François, parce qu'il y a des cadeaux absolument magnifiques à gagner. Il y a une œuvre de Richard Orlinski, d'une valeur de plus de 60 000 euros à remporter. Il y a des repas dans des restaurants étoilés, et puis aussi, et surtout, il y a des cadeaux inestimables, comme des places pour la cérémonie de clôture au Festival de Cannes, ou encore la visite des studios et une rencontre exceptionnelle avec les acteurs de la série Ainsi Grand Soleil pour deux personnes. Ça, c'est des cadeaux, je suis sûr, qui vont ravir, en tout cas, c'est sûr, les fans de la série, hein, j'espère.
Oui, oui, c'est vraiment cette grande tombola, c'est un rendez-vous qui a été pris depuis maintenant plusieurs années, qui rencontre un grand succès et qui permet de gagner donc soit une œuvre d'artiste contemporain renommé, ou des expériences uniques. Ça fait écho aussi avec le rôle de France Télé dans le Téléthon, puisque c'est une émission l'espace d'un week-end qui est retransmise en direct depuis France Télévisions, qui va permettre d'ouvrir la porte des studios mythiques de la série Ainsi Grand Soleil.
Alors, comment on peut participer concrètement à la tombola, François ?
La tombola, on s'inscrit sur le site et on achète des billets de tombola en choisissant l'œuvre pour laquelle on souhaite
participer,
son choix, participer. Ouais. Et il y a un tirage au sort qui est fait sous huissier pendant le Téléthon et les jours suivants, qui permettent de choisir les heureux gagnants.
Alors vous pouvez jouer dès maintenant, hein, je crois que le ticket est à 10 euros, il me semble bien, et vous pouvez en tout cas avoir chacun votre chance de gagner votre lot. Alors on va nommer quand même le site, c'est star-solidaire.com, hein, c'est ça ?
C'est bien ça, exactement.
Voilà, pour participer en tout cas à cette grande tombola du Téléthon. On rappellera qu'il y a 4 villes ambassadrices également en France cette année, comme tous les ans du Téléthon. Cette année, c'est 40 ans les Marais en Normandie, Sucé-sur-Erdre dans les Pays de Loire, Argentat-sur-Dordogne en Nouvelle-Aquitaine ou encore Pélissane en Provence, Alpes-Côte d'Azur. C'est important puisque chaque année, il y a 4 villes qui sont vraiment ambassadrices du Téléthon, en plus des 15 000 autres évidemment qui font rayonner la manifestation partout en France.
Oui, oui, donc c'est vraiment les projecteurs vont être tournés vers ces 4 villes, mais qui vont être représentatifs de la mobilisation partout en France. Et c'est vrai qu'un peu avant, un peu après le Téléthon, on se déplace un maximum pour rencontrer les bénévoles, et je peux vous dire qu'ils sont eux aussi très, très, très motivés par les résultats dont je vous ai parlé, et aussi parce que bien le Téléthon, c'est aussi un combat contre toutes les maladies rares sans traitement. Et cette année, nous aurons un ambassadeur qui s'appelle Maxence, qui est atteint de la maladie de Danone, qui est une maladie extrêmement rare, qui touche seulement quelques dizaines de personnes en France, tellement rare que même pour les chercheurs, c'est très compliqué d'étudier ces maladies, il n'y a pas de matériel biologique vraiment pour les étudier. Eh bien, l'AFM Téléthon investit de l'argent dans des projets de recherche ambitieux sur ces maladies très rares qui sont oubliées de tous. Alors, des laboratoires pharmaceutiques, bien sûr, puisque vous imaginez bien que pour ces maladies si rares, il n'y a aucune perspective commerciale derrière. Bien, l'AFM Téléthon souhaite trouver des solutions pour ces maladies extrêmement rares sans traitement aujourd'hui, avec de réels espoirs, là aussi, qui sont rendus possibles grâce aux chercheurs financés par le Téléthon. Et la maladie de Danone, dont est atteint Maxence, en fait partie. Un projet de recherche ambitieux, alliant cellules souches et intelligence artificielle, on le souhaite, pourrait permettre de mettre au point ou de découvrir un médicament et de lancer un essai clinique contre cette maladie. Ce sont des succès, mais c'est aussi encore plein d'autres succès à venir, parce que 95% des maladies rares aujourd'hui restent sans traitement. Et la FM Téléthon se bat contre toutes les maladies rares.
Et vous avez compris, on a encore effectivement besoin de vous. Je sais qu'il y a des personnes qui peuvent pas forcément donner beaucoup, qui donnent jamais, mais qui donnent une fois par an. C'est concret, qui vont des fois donner 1 euro, 2 euros, 5 euros au Téléthon. Tout est bon à prendre le moindre euro compte, en tout cas, et on passe en mode 36, 37, évidemment, pour faire vos promesses de dons. La ligne est ouverte ou pas déjà, François, en ce lundi 1er décembre?
Alors, la ligne, elle n'est pas ouverte, mais en revanche, les dons sont déjà possibles sur Internet, sur le site téléthon.fr.
Et dès ce week-end, c'est la grande fête du Téléthon en direct sur France Télévisions, et vous allez pouvoir effectivement appeler le 3637 dès ce week-end pour faire vos promesses de dons. On suivra le compteur, bien évidemment. François, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On expose les compteurs cette année?
On expose les compteurs. Et je souhaite un très bon Téléthon à tous et un grand merci à toutes les personnes mobilisées.
Merci beaucoup François. François Lamy, administrateur de la FM Téléthon, qui était avec nous aujourd'hui pour nous parler de la grande fête du Téléthon qui aura lieu donc vendredi et samedi. Surveillez bien dans vos villages, dans vos villes, il y a certainement des manifestations près de chez vous aussi. On compte sur vous, 36, 37. Merci François, à bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on recevra l'équipe du film La Condition avec Jérôme Bonnel, Louise Chevillotte et Galatea Bellucci qui seront nos invités. On recevra également toute l'équipe du téléfilm Au les cœurs qui sera diffusé sur France 2, ou encore également les deux réalisateurs de Chasse gardée.
Le rendez-vous des stars... C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de La Quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.